On continue de parler de Sade et de sa réception par les intellectuels tout au long du XXe siècle. Nous sommes pour ce faire avec l'universitaire et écrivain Éric Marty, auteur du livre « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» Et parmi ceux qui l'ont pris au sérieux, il y a le philosophe Michel Foucault.
Que serait, après tout, un langage qui ne serait que transparence? Un langage sans case sombre. Ce serait un langage absolu, un langage impossible, en droit et en fait. À la fois une chimère et un scandale, une pure transgression. Or, il est étrange que ce fantasme soit apparu exactement au seuil de la littérature moderne et que, sous deux formes antithétiques, il ait occupé pratiquement toute la fin du XVIIIe siècle. Avec Rousseau, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à l'innocence. Avec Sade, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à ce qui, au contraire, ne peut pas, ne doit pas être nommé. On peut dire que la chimère d'un langage sans point aveugle, d'un langage sans grille, a constitué, depuis le XVIIIe siècle, le projet de toute littérature. Mais au XVIIIe siècle, ce projet ne pouvait former que des expériences limites. Sade n'a pu effacer les grilles du langage, Sade n'a pu constituer un langage sans ombre, un langage entièrement lumineux, que dans une expérience périlleuse où ce fut sa propre existence, son existence à lui, qui fut emprisonnée.
Michel Foucault, au cours de l'émission La liberté coupable en 1964, Michel Foucault qui a été un grand passionné de Sade, Éric Marty, je crois qu'il faut revenir un peu plus précisément qu'on ne l'a fait jusque-là sur la figure de ce philosophe, ne serait-ce que parce que il a écrit ce livre, Histoire de la folie à l'âge classique, et que Sade lui-même a été considéré comme fou, en tout cas enfermé dans un asile d'aliénés. Forcément, il a dû y avoir pour Foucault une résonance ici très forte. Alors, que peut-on dire sur la lecture? Il y en a deux, hein, parce qu'il va évoluer Foucault sur son rapport à Sade, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur son premier mouvement de jeunesse, disons, par rapport à cet écrivain?
Oui, alors c'est un discours incandescent de Foucault sur Sade, un discours de fascination qui est beaucoup imprégné de Blanchot et de Bataille, et qui est essentiellement marqué par ce qu'on vient d'entendre, à savoir le lien à l'écriture, le lien à l'anonymat, le lien à la souveraineté, à toutes ces notions-là, mais surtout en effet, c'est articulé à la question de la folie que Foucault fait de Sade une figure emblématique, très puissante, dans une opposition qu'on a entendue là avec Rousseau, justement. Et avec Rousseau qui, jusque-là, était précisément l'écrivain de la folie. Et tout le travail de Foucault, c'est d'éliminer Rousseau pour y substituer la figure de Sade comme la vraie figure puissante qui peut, en effet, avoir cette place si importante dans l'histoire de la folie. Pourquoi ? Parce que, justement, Sade est celui qui résiste au regard de l'aliéniste. Sade est celui qui résiste, justement, aux symptômes de la folie. Sade est celui qui conserve la puissance de la déraison en tant qu'elle est la véritable liberté, justement, de ce qu'on appelle la folie, mot qui est absolument refusé par Foucault comme stigmate psychiatrique, comme stigmate médical par lequel on expulse justement du sujet toute la potentialité, toute l'infini, tout ce murmure immémorial, tout ce silence, toute cette grandeur, cet infini donc dont on vient de parler.
Donc c'est Sade comme une figure pure de la contestation.
C'est ça.
À ce moment-là, en tous les cas.
Voilà.
Et puis, plus tard, alors en 1975, c'est aussi une date très importante, hein, parce
Absolument.
Que c'est la sortie du film Salaud dont on parlait tout à l'heure. Foucault va réviser son jugement.
Il va carrément abjurer Sade. Et alors là, c'est intéressant parce que ça rejoint absolument ce que disait Bruno Blankmann à l'instant. C'est qu'en réalité, on pourrait dire, et c'est un peu dur pour Foucault, mais qu'il annonce justement l'effacement de Sade d'aujourd'hui, au travers de deux choses. Effacement de la littérature n'est plus intéressante, la littérature n'est plus le support pour Foucault d'un espace de vraie transgression, la littérature n'est plus,
Pourquoi
n'est plus rien, parce qu'elle est au fond l'arme de l'individu, l'arme de la subjectivité, et que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les discours anonymes, c'est l'archive, c'est les processus collectifs, c'est les phénomènes justement sociaux qui sont...
C'est le réel davantage.
C'est le réel, voilà, le réel. Et la littérature est pour cela, en fait, quelque chose de totalement marginal, qui n'a plus d'intérêt, d'où la rupture que Foucault fait, pas seulement avec Sade, alors Sade est un exemple tout à fait frappant de rupture, mais avec la littérature en général. Et pour rebondir sur ce que c'est le point de Blankmann, je dirais qu'en effet, Sade n'est plus audible aujourd'hui parce que il est la littérature, c'est-à-dire, au fond, le mal, ou la violence, ou la pornographie qui serait assumée par une subjectivité. Et ça, c'est devenu insupportable. On est dans un monde d'hyperviolence, en un monde d'hyperpornographie, mais il ne faut pas que cette hyperviolence et que cette hyperpornographie soient assumées par un sujet. Il faut que ça reste comme un processus, je dirais, précisément réel, comme Foucault, justement, l'entend, et non plus, justement, pris dans une esthétique, pris dans un individu, pris dans un principe aristocratique, élitiste et esthétique de l'individu. D'où le fait qu'en effet, ça est balancé par Foucault de manière très, très explicite.
Vous le mettez en accusation, là, Foucault
Non, je dirais que Foucault... Alors, Foucault, à la fois, oui, moi, je serais en désaccord avec la position de Foucault, mais je dirais qu'en même temps, il est très intelligent, très lucide. Il annonce, au fond, le 21e siècle. Foucault annonce vraiment, et c'est en ça qu'il est un vrai moderne, plus moderne, au fond, que ses compagnons qui ont été, au fond, des romantiques. C'est le mot qu'il emploie parfois pour s'en moquer. Lacan, Barthes, tout ça, Klosowski, ce sont des romantiques, au fond. Et lui est un vrai moderne au sens où il se débarrasse de ce romantisme qui est encore attaché et que Sade incarne parfaitement, romantisme noir, que Sade d'ailleurs même historiquement préfigure ou marque dans ses liens avec le roman noir, le roman gothique, etc. Donc il y a quelque chose de très... Moi je suis assez fasciné par Foucault et impressionné. À la fois par son adhésion...
C'est peut-être lui aussi qui crée en partie la modernité, parce qu'on sait que Foucault a eu une influence très importante sur l'université américaine.
Tout à fait.
Et que les idées qui nous reviennent depuis une dizaine ou une quinzaine d'années viennent en grande partie de l'université américaine, elle-même inspirée par ces théories françaises des années 70.
Tout à fait.
Donc plutôt qu'une préscience, peut-être qu'il est aussi l'un des instigateurs de ce que vous dites.
Alors, oui, alors tout à fait, il est... Ça, c'est assez frappant et tout le discours actuellement de la de gender et compagnie sont très inspirés par Foucault, mais au fond, quand on lit Baudelaire, par exemple, on s'aperçoit que Foucault est encore trop romantique lui-même. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a, au fond, Foucault a donné toutes les armes pour détruire, au fond, ce qu'a été la modernité française, en l'accusant justement de cette espèce d'esthétisme, de subjectivité, de romantisme. Mais Baudelaire, finalement, tout en s'emparant de beaucoup du trésor foucauldien, eh bien, met Foucault dans une sorte de même sac. Donc, il n'a pas beaucoup gagné, au fond, à cette espèce de trahison, entre guillemets, de son propre monde, de sa propre communauté, en devenant, au fond, un penseur post-européen. C'est comme ça que je vois le Foucault dernier, penseur post-européen, post-moderne aussi, de cette manière. Et, mais en effet, vous avez tout à fait raison.
Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à une analyse, alors là on va peut-être plus loin que ce que vous souhaiteriez, du mouvement MeToo par exemple, ou de l'affaire DSK, est-ce que ça peut rentrer dans votre schéma? Est-ce que vous auriez pu faire un chapitre de plus sur le 21e siècle à partir de ces éléments-là, Éric Marty?
Oui, mais alors c'est là justement où Foucault reste malgré tout complètement dans les schémas malgré tout de son propre camp, de sa propre communauté, ses contemporains, au sens où ça lui échappe au fond. Le phénomène de coupure avec ce qu'a été la modernité par l'actuelle université américaine, par le gender, c'est à la fois reprendre la puissance de décryptage, d'analyse des processus et de la place du sexe, par exemple, dans la société, l'invention du sexe, toutes ces questions-là, tout ce que Foucault a mis en place dans la volonté de savoir, sur l'idée qu'au fond, le sexe était une invention occidentale, par exemple, c'est des choses que reprennent beaucoup les genders, mais en même temps, évidemment, les genders sont aussi marqués par un moralisme et un puritanisme typiquement américain.
Qui n'était pas foucauldien.
Qui n'est pas du tout foucauldien. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent en commun autour de l'idée de désexualisation, l'idée de la manière dont Foucault, au fond, fait du sexe une sorte de mythologie moderne et dont il faut se débarrasser, qui est très encombrante. Mais ça, traduit par le puritain, ça devient quelque chose d'effrayant, ça devient en effet des accusations de viol, d'accusations de tout le discours très accusatoire par rapport à la sexualité qui est contemporain. Donc en ce sens, Foucault est un peu dépassé par sa propre démarche, je dirais, critique à l'égard de son propre discours.
Il nous reste quelques minutes, Éric Marty, pour parler de votre favori, de votre chouchou, Roland Barthes. Ce serait dommage de ne pas l'évoquer. Et sur la notion de délicatesse, on n'a pas le temps de passer malheureusement l'extrait qui aurait introduit cette séquence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le point de vue de Barthes sur Sade?
Oui, alors Barthes participe complètement à tout ce mouvement qui, au fond, la création d'un nouveau sujet qu'on pourrait appeler le sujet pervers. Au fond, la grande idée des modernes, c'est que nous sommes dans le monde du sens commun, nous sommes dans le monde du stéréotype, nous sommes dans le monde de la mythologie petite bourgeoise, et qu'il n'y a pas d'issue. Le marxisme, la révolution, tout ça, ce sont en effet des sortes d'horizons possibles, mais l'issue subjective, ça ne peut être que par la création d'une nouvelle subjectivité. Or, le modèle subjectif le plus capable de rompre avec le sens commun, de rompre avec le stéréotype, c'est le sujet pervers.
Mmh. Et donc, en gros, le pervers est anti-kitsch, anti-bourgeois, voilà. Et il nous permet de nous libérer.
Nous libérer ou de nous enfermer, peu importe, en tout cas de quitter cette espèce d'univers du sens commun qu'est l'univers, oui, au fond, de la France des années 60, 70 et au-delà. Et donc, le sujet pervers est un sujet qui rompt avec toutes les accommodements, toutes les compromissions, et permet de renverser toutes les pensées, y compris justement la délicatesse. Alors, la délicatesse en cette occasion, c'est celle de Sade. Sade invente une nouvelle qualité de la délicatesse qui n'est plus justement la délicatesse petite bourgeoise qui vise à ne pas heurter, à être doux, etc. Mm-hmm. Non, c'est une délicatesse très très corrosive. C'est la délicatesse de celui qui prête à sa femme qui va prendre le linge souillé de Sade, oui, pour le nettoyer.
Et avec Sade, une sorte de jouissance.
Voilà. Et oui. Ça projette sur cet acte tout à fait conjugal et familial même de Madame de Sade une délicatesse sadienne, c'est-à-dire donc un principe où l'érotisation du monde est totale. Et donc, si tout est érotique, tout est érotisé, à ce moment-là, on trouve en effet des principes de délicatesse, de subtilité dans la manière de voir le monde et de projeter son propre plaisir, désir sur les choses les plus quotidiennes, quelque chose d'absolument inouï.
Mais en même temps, la pauvre Madame Sade, à la fin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie les chaussettes de son mari.
Voilà. Elle est Madame de Sade. Mishima a fait une pièce magnifique qui s'appelle Madame de Sade. On n'a pas assez pensé à elle. C'est un personnage tout à fait fascinant aussi par sa fidélité, au fond, à Sade, et la correspondance et les lettres de Sade à sa femme sont des lettres absolument magnifiques. En effet,
elle vit très dure quand même pour elle aussi.
Elle vit très dure, une vie très dure, mais en même temps, elle a connu quand même un être tout à fait fascinant, extraordinaire. Elle a été la femme du marquis.
Donc, Barthes est sadien, on peut le dire.
Barthes est sadien, pas du tout sadique. Il n'y a aucune dimension perverse au sens ordinaire du terme. C'est en ça, quand je parle de sujet pervers, c'est vraiment pas du tout au sens psychiatrique, c'est au sens métaphysique que ce sujet pervers peut apparaître. Et donc, en effet, il y a sadisme et il y a le sadien. C'est pas la même chose. Barthes est sadien, pas sadique.
Merci beaucoup, Éric Marty. Et pour aller plus loin, je conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» paru en 2011 au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, est toujours disponible.